Donc, Thierry Gamel, alors, je suis directeur de la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Bon, le fait est que aujourd'hui, moi je crois qu'il y a un énorme risque à la démédicalisation de la prise en charge des personnes. Alors, on peut appeler patients, hein, de côté on appelle patients. Et je pense que ce qui se joue énormément aujourd'hui, c'est le passage dans le médico-social, chez les éducateurs, chez les travailleurs sociaux, chez les psychologues, qui n'ont pas la culture des psychiatres, hein, qui ont leur propre culture. Et c'est tout ce passage-là, je suis très provocateur là-dessus, mais c'est ce passage-là qui fait que si il y a un effort à faire, effectivement, du côté des gens qui sont dans le champ médical et dans le champ psychiatrique, de prendre non pas le vocable, mais la conception des choses du médico-social, je crois qu'il y a un énorme travail du médico-social, des éducateurs, des travailleurs sociaux, à prendre également la culture de la psychiatrie. On a le président n'est pas là, et j'excuse son absence, Pierre Thomas n'est pas là, et il dit qu'il faudrait inventer un jour un espéranto en psychiatrie, parce que c'est vrai, ou pour les trolentos, parce que on va demain se retrouver dans des prises en charge qui seront probablement très, très, très dépsychiatrisées. Quelque chose de très symptomatique, ce matin et cet après-midi, j'étais à l'Agence régionale de santé. Ce matin, on était 6 autour d'une table pour parler d'Atlas de santé, il y avait un médecin. Un médecin. Cet après-midi, on était 11 autour d'une table pour le conseil scientifique du programme régional de santé. Il y avait 2 médecins sur 11. Alors c'est très bien, là, il n'y a pas du tout de question de dire qu'on est en train d'ouvrir, et ici, à la Fédération, on le fait aussi, hein, puisqu'on pense que tout il faut ouvrir. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas trop reculer, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense qu'il y a quand même tout un corpus de savoir qu'on ne pourra pas mettre comme ça au rebut sans penser que, effectivement, dans un aspect très catégoriel, et c'est un petit peu la difficulté peut-être des psychiatres aujourd'hui de penser cette évolution, c'est que le catégoriel, les schizophrénies, les troubles bipolaires sont en train petit à petit de reculer complètement pour revenir à quelque chose qui peut-être que sera la révolution du DSM-5 ou du DSM-6, qui serait plus à ce moment-là dans quelque chose de dimensionnel. Mais ce sera extrêmement douloureux, je pense. Je pense qu'il y a un certain nombre de psychiatres au-dessus de 50 ans, de 55, de 60, je ne sais pas, qui seront éjectés en fait du train parce qu'ils n'auront plus la possibilité de penser cette évolution. Mais je suis à la fois chagrin et puis anxieux de voir qu'on va pouvoir, dans les mois et dans les années à venir, dire, à partir d'un certain temps, les psychiatres seront des gens aigus, en gros, ça va être ça, on est hospitalisé pour un moment aigu, on donne des médicaments, on reste 3 semaines à l'hôpital, et après, tout ce qui va être de l'accompagnement, qui va être de la socialisation, etc., ne sera plus pris dans le champ sanitaire. Et je crois que là, il y a un vrai, à mon sens, là, il y a un vrai, une vraie difficulté, et en tout cas, une vraie matière à penser sur qu'est-ce qu'on fait de corpus de savoir qui s'éloignent les uns des autres. Hein. Aujourd'hui, c'est fini. Enfin, c'est plus le psychiatre qui va dire à l'éducateur tel et tel diagnostic, c'est terminé tout ça. Alors je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est ce que nous observons, et avec les collègues qui sont du médico-social, le dialogue est de plus en plus difficile.
Oui, je vais répondre à la place de Claude Olivier Doron, parce que j'ai posé cette question un jour, on s'est déjà rencontré une fois dans un débat. Et je disais quelque chose que je dis des fois, que le psychiatre, au fond, il ne peut soigner que si, au-delà du malade, il voit la personne, le sujet, etc. Et vous m'avez dit une chose que j'ai beaucoup pensé après. Vous m'avez dit oui, c'est vrai, mais attention à ne pas surdimensionner le sujet. Et puis ensuite, la personne malade, eh bien, au fond, on l'abandonne, on diminue les soins, moins d'infirmiers, moins de prise en charge, on vient que de l'aigu, puis le reste, ça. Et ça m'avait frappé, effectivement, que dans le discours humaniste du fait qu'il faut toujours préserver la personne, le sujet citoyen par rapport au malade, c'est valable dans toute la médecine, mais il faut faire attention, parce que si on va très très loin dans ce raisonnement, Paul Olivier avait raison, à ce moment-là, le politique peut dire, bon, ben, écoutez, on va s'occuper donc de la personne, et puis le sujet malade, eh ben, on fera avec. Et donc, on peut aller vers des systèmes de soins moins disponibles. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que vous m'aviez dit à l'époque, mais j'ai bien retenu.
Oui, ça fait plaisir. Effectivement, non, mais c'était d'ailleurs, c'est ce que je disais quand au début, j'expliquais le partage objet-sujet qui est un lieu commun, mais vraiment un lieu commun de beaucoup de praticiens au niveau des débats éthiques. Et on comprend bien pourquoi, parce que la médecine, là, de manière générale, s'est construite sur l'objectivation du corps du malade, l'abandon de la subjectivité. Il y a tout cet ensemble de lieux communs qui ne sont pas complètement faux, et donc d'une certaine manière c'est bien de réintroduire du sujet, etc. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut savoir précisément ce qu'on entend par la réintroduction du sujet. Là je pense qu'il y a vraiment, on l'a bien vu en psychiatrie effectivement, je pense qu'il y a un malentendu fondamental qui est très clair par exemple dans la pratique de secteur, qui explique tous les problèmes que présente la pratique de secteur et ses ambiguïtés, parce que d'un côté c'était bon, on va pouvoir traiter en ambulatoire tout un ensemble de personnes, etc. Ça évite leur exclusion, leur mise à l'écart de la société dans des institutions fermées, etc. Et ça, c'était ma foi tout à fait positif. On rend des droits aux personnes avec les associations d'usagers, etc. Et ça, c'est très positif. Mais d'un autre côté, c'est le paradis pour les administrateurs et les gestionnaires. Parce que ce que vous dites, c'est qu'aussi, on peut les prendre en charge en dehors de structures hospitalières. On peut, dans une certaine mesure, les traiter comme des sujets à part entière. Et alors, c'est très clair en psychiatrie, effectivement, des sujets rationnels qui sont capables de se gouverner de manière commode, etc. Surtout si on leur donne des médicaments qui permettent de les traiter. Et c'est beaucoup moins coûteux. Et c'est pas pour rien, évidemment, que le secteur a eu, à mon sens, un succès phénoménal au niveau des transformations qui étaient à l'œuvre dans ces mêmes années-là, c'est-à-dire les années 80, au niveau d'une gestion néolibérale des politiques publiques et des politiques de santé en particulier. Et cette ambiguïté, elle est permanente. Donc tout dépend ce qu'on entend par sujet. Je pense qu'effectivement, si on entend par sujet le sujet avec toutes ses fragilités, avec le fait qu'il est souvent... de fait, en tant que malade, amputé d'un certain nombre de choses, très bien. Si on entend le sujet rationnel, autonome, etc., quand je prenais le cas de la réanimation tout à l'heure, c'est exemplaire de ça. Comment est-ce qu'on fait le tri en réanimation ? J'ai des exemples très précis en tête. Au nom de l'autonomie du sujet, c'est quoi l'autonomie du sujet ? C'est est-ce qu'il se lave ? Est-ce qu'il descend et fait ses courses lui-même ? Est-ce qu'il va voir ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont le voir, etc. C'est tout un ensemble de choses comme ça. C'est une forme bien particulière d'autonomie. Et c'est un élément important dans la décision ensuite de réanimation. Je ne l'invente pas, mais j'ai des cas très précis. Alors, on voit bien l'ambiguïté de ça.